Bonjour et bienvenue sur OGM. Il y a quelques jours, la loi climat, c'est-à-dire la loi issue des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, était proposée en Conseil des ministres. À cette occasion, nous vous proposons, dans cet épisode, de revenir sur la Convention citoyenne pour le climat. Quel bilan, quelle réponse, mais aussi quelle mobilisation a-t-elle entraîné? Je m'appelle Alba et avec Elena, nous tâcherons de répondre à toutes ces interrogations.
The balance of nature is a major...
La Terre est toujours aussi belle, toujours aussi intéressante.
C'est un peu aux enfants d'éduquer les parents.
Une croissance exponentielle dans un infini ne peut pas durer éternellement.
When the environment is degraded, when there is no firewood, when there is no water, when there is no food, it's usually the women who feed it first.
Avant de rentrer dans les détails, on vous propose un petit récapitulatif de ce qu'est la Convention citoyenne pour le climat. Donc elle a été créée en octobre 2019 à la suite du Grand Débat National et c'était une proposition du collectif Gilets citoyens et du Conseil économique, social et environnemental. Elle est constituée de 150 citoyens et citoyennes qui ont été sélectionnés par tirage au sort et qui forment un échantillon représentatif de la population française. Donc ça veut dire que par exemple, il y a 49% d'hommes et 50% de femmes dans la Convention, comme c'est le cas dans la population française. Son objectif global, ça a été de définir une série de mesures qui permettent d'atteindre une baisse d'au moins 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990, dans un esprit de justice sociale. Donc cet objectif, il a été atteint avec la publication du rapport de la Convention en juillet 2020, dans lequel la Convention fait 149 propositions sur lesquelles on reviendra plus tard. Donc pour l'élaboration de ce rapport, les participantes et participants se sont réunis à 6 reprises pendant des week-ends à Paris, au Conseil économique, social et environnemental. Et comme dernier point, ce qui est important, c'est que le président de la République s'est, quant à lui, dès le début, engagé à ce que ses propositions législatives et réglementaires soient soumises sans filtre, soit à un référendum, soit au vote du Parlement, soit à application réglementaire directe, sachant que le choix de l'option, elle était dans les mains de la Convention citoyenne pour le climat, qui a choisi, pour la majorité des mesures, la voie parlementaire. En juin 2020, après plus de 8 mois de travail, la Convention citoyenne pour le climat achevait ses 149 propositions. Ces propositions portent sur 5 domaines, l'alimentation, les transports, la production et le travail, le logement et la consommation. Parmi les propositions phares, on trouve par exemple l'introduction dans le droit pénal d'un crime d'écocide, l'interdiction de la publicité dans l'espace public extérieur pour les produits les plus émetteurs de gaz à effet de serre, le renforcement de l'obligation de rénovation énergétique des logements, la mise en place d'un choix végétarien quotidien dans la restauration collective publique, l'interdiction des vols intérieurs quand une alternative de moins de 4 heures existe, mais aussi l'interdiction des véhicules les plus polluants dans les centres-villes. Pour chaque proposition, la Convention précise les acteurs concernés, la méthode préconisée et l'impact carbone représenté. Au niveau des cibles, la Convention s'adresse aux individus comme aux entreprises et à l'État. Et concernant les méthodes, on retrouve le plus souvent des normes contraignantes, suivies des incitations financières, puis de la pédagogie. Mais comment a réagi le gouvernement à la lecture de ces 149 propositions? Fin juin, Emmanuel Macron recevait à l'Élysée les 150 membres de la Convention. L'engagement sans faille des 150 citoyens a été souligné par la ministre de la Transition écologique de l'époque, Elisabeth Borne. Le président, qui avait annoncé que les propositions seraient transmises sans filtre, en a finalement retenu 146 sur 149. Il a en effet écarté la taxe de 4% sur les dividendes, la réduction de la limitation de vitesse à 110 km/h sur l'autoroute et la modification du préambule de la Constitution. Ce qui n'a pas empêché Emmanuel Macron d'annoncer par la suite, en décembre 2020, la tenue d'un référendum sur l'introduction de la défense de l'environnement dans la Constitution. Dans un de ses tweets, le président résumait ainsi sa réponse. Le temps est venu de faire, d'agir. Je m'y étais engagé, je tiens parole. 146 propositions sur les 149 que vous avez formulées seront transmises soit au gouvernement, soit au Parlement, soit au peuple français. 146 sur 149, c'est donc ce qu'on appelle sans filtre. Sans parler des propositions qui seront revues à la baisse par la suite. La transposition législative et réglementaire se fera entre autres dans la fameuse loi climat qui reprend environ 40% des propositions. Le projet de loi comporte 65 articles répartis en 6 titres qui correspondent aux 5 thèmes sur lesquels ont travaillé les 150 citoyennes et citoyens de la Convention, plus un sur la justice environnementale. Le projet doit être présenté en Conseil des ministres le 10 février et sera examiné à l'Assemblée nationale à partir de fin mars, sachant que certains sujets, comme les conditions de création d'un délit d'écocide, font encore l'objet de discussions serrées entre les ministères. L'inquiétude qu'ont la majorité des citoyens et citoyennes aujourd'hui est que ce projet de loi ne corresponde à la fin plus à ce qui avait été présenté par la Convention au départ. Il a été déjà déclaré depuis Matignon qu'il y a des sujets pour lesquels l'ambition est la même, mais la façon de l'écrire diffère, des cas où on n'atteint pas tout à fait le même résultat et on explique pourquoi. En rencontrant les conventionnels, donc les citoyens et les citoyennes qui font partie de cette convention, mi-décembre, Emmanuel Macron avait aussi préparé le terrain à ce bilan en demi-teinte, en argumentant entre autres avec les répercussions de la crise sanitaire qui ont déjà mis à genoux certains secteurs. Vous avez sûrement déjà dû lire ou entendre certaines critiques faites à ces réponses apportées par le gouvernement, et en effet, de manière générale, les différentes dimensions du projet de la Convention citoyenne pour le climat, que ce soit le projet en soi, le rapport ou encore la réaction du gouvernement, sont au cœur de nombreux débats. Et c'est ce à quoi on va s'intéresser maintenant, donc quels points sont critiqués, par qui et pourquoi. Donc dans un premier temps, on a Arnaud Gosseman, qui est docteur en droit, avocat spécialisé dans le droit de l'environnement et professeur à l'Université Paris 1, qui va critiquer davantage la forme que prend la Convention citoyenne pour le climat. Il soutient qu'elle n'a pas d'existence juridique et que finalement tout dépend de la volonté présidentielle, que ce soit le rôle des garants ou encore l'objectivité de l'information environnementale ou même la force de loi des décisions. Et donc il constate que, enfin, selon lui, cette institution, c'est une régression en ce qui concerne la participation du public. Il s'oriente au principe de participation du public qui est inscrit dans la Constitution via l'article 7 de la Charte de l'environnement. Il dit qu'aucun des critères sur lesquels repose ce principe n'est respecté au sein de la Convention citoyenne pour le climat. Un premier critère, par exemple, c'est que le nombre de personnes pouvant s'exprimer est illimité et que tout le monde peut s'exprimer au même niveau, et ce n'est pas le cas dans la Convention citoyenne pour le climat. Comme vous le savez, il y a 150 participants et participantes, et le reste peut s'exprimer via des plateformes, mais donc pas au même niveau que ces participants et participantes. Donc pour faire court, selon lui, la consultation est exclusive, et il critique aussi la méthode de sélection qui est le tirage au sort. Pour lui, c'est une méthode opaque et qui n'a pas été largement débattue. Il souligne également que les attributions du comité de gouvernance et des garants ne sont pas fixées dans des textes et n'ont donc aucune garantie juridique ou légale. Donc ces garants, comme l'est par exemple Cyril Dion, peuvent seulement interpeller le chef de l'État dans les médias. Et pour lui, c'est insuffisant, c'est extrêmement fragile. Finalement, il met sur le devant de la scène que d'après la loi de 2012, l'État devrait indiquer par avance comment il va suivre ou non toutes les recommandations émises par les participants et que le gouvernement ne le fait pas actuellement. Il rappelle aussi que cette reprise sans filtre qui avait été promise par Emmanuel Macron est d'un point de vue juridique tout simplement impossible parce que une grande partie de la loi française est élaborée à Bruxelles et donc à échelle européenne et que la France n'a pas le dernier mot là-dessus. Donc en résumé, il compare la Convention citoyenne pour le climat à un jeu de Monopoly dans lequel l'État est un des joueurs et donne les règles du jeu, mais à la fin de la partie, il qualifie la Convention citoyenne pour le climat de monarchique où toute la crédibilité repose sur la confiance dans la parole d'Emmanuel Macron. Quant au rapport final de la Convention citoyenne pour le climat, il est aussi objet de certaines critiques. On a d'une part les partis de gauche et les ONG spécialistes de la défense du climat qui ont félicité les résultats du travail de la Convention, mais qui font tout de même remarquer quelques oublis ou points faibles sur le nucléaire ou les pesticides par exemple. Le rapport aura, et sans grande surprise j'ai envie de dire, surtout été critiqué par les politiques de droite. De Marine Le Pen à Christian Jacob en passant par François-Xavier Bellamy, la Convention n'aurait pas de légitimité démocratique et les propositions seraient très idéologiques. Ensuite, on a Dimitri Courant, qui est chercheur en sciences politiques à l'Université de Lausanne et de Paris 8, qui lui regrette que la Convention citoyenne pour le climat n'ait pas soumis l'ensemble des mesures au référendum, la promesse du sans-filtre étant ambiguë dès le départ selon lui. Il pense que les Français auraient sans doute voté pour les mesures envisagées, peut-être en dehors du 110 km/h, dit-il, et il défend donc le référendum qui aurait été une manière de laisser au peuple le dernier mot. Enfin, on a tout ce qui se passe du côté des groupes militants, où là, c'est les diverses réponses apportées par le gouvernement ou encore la transposition des propositions en projet de loi qui sont au cœur de la critique. De manière générale, les ONG contestent les chiffres en estimant qu'un grand nombre de ces propositions sont vidées de leur substance lors du processus de transposition législative. Le réseau Action Climat, quant à lui, regrette, je cite, le manque flagrant d'ambition du texte et appelle les parlementaires à redonner au projet de loi l'ambition initiale des mesures des 150 citoyens et citoyennes. Cyril Dion, qui, comme je l'ai évoqué avant, joue le rôle de garant chargé d'assurer l'indépendance des travaux de la Convention, a lui, le 15 novembre 2020, lancé la pétition « Sauvons la Convention citoyenne pour le climat ». Donc ça en dit beaucoup sur sa perception de ce qui se passe en ce moment autour de cette convention et du rapport qui a été publié. Donc, c'est une pétition qui a rassemblé un grand nombre de signatures en peu de temps. Et il dit « Je me suis engagé à défendre le travail de la Convention citoyenne pour le climat. Si Emmanuel Macron ne tenait pas parole, les mesures qui devaient être transmises sans filtre sont détricotées et amoindries une à une. Si nous nous taisons, ce sera un nouvel échec pour le climat. »
Parallèlement à la pétition, le mouvement « Maintenant ou jamais » voyait le jour le 3 décembre. L'objectif ? Inonder les réseaux sociaux avec le hashtag « Maintenant ou jamais » lors d'actions collectives, massives, ponctuelles et organisées. Pour ce faire, le mouvement fait appel à des groupes WhatsApp dans lesquels sont envoyées toutes les consignes d'action. Le 10 février, c'est au tour de la jeunesse d'interpeller les décideurs politiques. Ce 10 février, France Info publie la tribune intitulée « Agir pour le climat, c'est aussi agir pour la jeunesse ». Cette tribune a été signée par une trentaine d'organisations étudiantes ou de jeunes. Écologique fait d'ailleurs partie des signataires. Vous retrouverez en description les liens pour la pétition, la tribune et le document d'inscription pour rentrer dans les groupes WhatsApp de Maintenant ou Jamais. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
La Terre est toujours aussi belle, toujours aussi intéressante.
C'est un peu aux enfants d'éduquer les parents.
Une croissance exponentielle dans un infini ne peut pas durer éternellement.